Bienvenue au Polysécur épisode spécial. Je suis avec Alexandre.
Bonjour Nicolas, Loïc.
Ça va bien?
Bah, ça va super bien. Cette matinée d'enregistrement, j'adore ça.
Oui, on est chanceux aujourd'hui, il fait beau en plus. Fait qu'on aura, on a une belle journée devant nous, fait que c'est super agréable. Aujourd'hui, on reprend un sujet qu'on devait traiter la dernière fois, c'est-à-dire la résilience et l'info nuagique. Ouais. C'est un sujet qui est quand même assez complet. Il y a beaucoup de facettes, puis je pense qu'il y a beaucoup de mythes qui vivent encore dans la tête des gens sur qu'est-ce que l'info nuagique et dans quelle mesure cela s'inscrit dans la continuité des affaires, dans la résilience, et comment ceci peut nous aider et nous nuire également dans la perception de la cyber-résilience. Donc, je vais te laisser amorcer avec ça.
Ouais. Alors, je vais prendre un exemple par rapport à l'info nuagique. L'info nuagique, hein, il y a tout un virage numérique, il y a beaucoup d'entreprises qui se précipitent là-dedans, à tort ou à raison, et puis il y a quand même pas mal d'avantages, donc en effet, c'est justifié. Maintenant, de la façon dont ça se précipite, hein, ben, parfois il y a peut-être un manque de réflexion ou de recul par rapport à ce virage numérique. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du sinistre qui s'est passé à OVH pour bien montrer qu'est-ce qui peut se passer lorsque l'info nuagique, en fait, vient à être indisponible pour justement amener les personnes à réfléchir sur l'aspect de si j'ai plus mon informatique, si j'ai plus l'info nuagique, mon client, mon fournisseur, ben, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Alors, je vais prendre le cas d'OVH Cloud qui a été sinistré l'année dernière, le 10 mars 2021. Il y a eu un incendie. Le départ d'incendie, c'est fait en fait dans la salle énergie. C'est un onduleur qui apparemment, l'eau est tombée sur l'onduleur et puis ça a déclenché en fait l'incendie. Alors, ce centre, c'est un gros centre. Hein. OVH, hein, au niveau européen, le site infonuagique le plus gros d'Europe. Donc là-dedans, sur ce site de Strasbourg, il y avait 4 sous-centres informatiques qui s'appellent SBG1 à SBG4. Hein. Et sur ces 4 centres informatiques, il y en a 2 qui ont été impactés. Le SBG2 a été intégralement détruit et le SBG1 a été partiellement détruit. Ça a eu pour impact de toucher 65 000 clients qui ont été donc impactés, qui ont eu leur système à un moment ou à un autre qui ont été indisponibles. C'est 120 000 services qui ont été indisponibles. Donc ça, toutes ces sources-là, vous pouvez les retrouver. Là, c'est sur l'usine nouvelle. Vous pouvez les retrouver en tapant sinistre OVH. Et il y a eu 464 000 noms de domaines qui ont été mis hors ligne. Alors, des noms de domaines pour les gouvernements, des points .gouv pour les municipalités, pour les entreprises privées, pour les associations, pour les aéroports, pour les partis politiques, etc., etc., etc. 464 000, c'est quand même pas mal. Et on s'est aperçu en fait qu'aussi en termes d'organisation, les backups, la salle de backup était juste à côté de la salle des serveurs. Donc quand ça a brûlé les serveurs, les données de production et ça a brûlé aussi les sauvegardes. Ce qui a amené en fait à avoir beaucoup de pertes donc des backups et notamment des backups qui étaient irrécupérables. Et là, ça peut amener la question aussi sur les sauvegardes. Comment ça se fait qu'on puisse pas récupérer une sauvegarde alors qu'il y a des processus du style 3-2-1. Il y a un rapport BEARI qui est sorti, hein, c'est le bureau d'enquête et d'analyse sur les risques industriels. Et il y a énormément de choses qui sont ressorties là-dessus, hein, c'est 43 pages, je vous invite à y jeter un coup d'œil dessus, notamment pour les propriétaires qui nous écouteraient de centres infonuagiques. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Donc là-dessus, il y avait une absence de système d'extinction. Dans un centre informatique, on n'imagine pas qu'il n'y ait pas de système d'extinction. Et ben, pourtant, le numéro 1 européen en centre infonuagique n'avait pas de système d'extinction dans ce centre informatique. Ils avaient des détecteurs, heureusement, c'est ce qui a permis de déclencher en fait le secours, mais il n'y avait pas de système de détection. Il y avait dans le SBG2, donc le centre où il y avait les serveurs, le plancher était en bois. Moi, j'imagine pas en fait un plancher en bois dans un centre informatique, ça c'est complètement délirant. Pas de porte coupe-feu. Le bâtiment, comment est-ce qu'il était construit? C'est par en fait une pression sur pression qui permettait en fait de faire aérer le bâtiment du bas vers le haut. Donc, ce qui fait qu'une très bonne circulation d'air. Et s'il y a une circulation d'air, eh ben les flammes s'engouffrent là-dedans. Elles sont heureuses, hein. L'air, l'oxygène et tout ça, les flammes adore. Et donc, du coup, ça a précipité, en fait, l'incendie. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, à dire là-dessus, beaucoup de, d'erreurs. Et ça, c'est un gros centre informatique OVH, hein, comme je vous le dis, hein, c'est le premier européen, hein, c'est le numéro un européen de centre infonuagique. Donc, imaginez fournisseur infonuagique hein, qui fait ça dans son garage hein, ou qui fait ça en fait dans un centre commercial comme j'en connais quelques-uns. Imaginez si le plus gros n'avait pas ça, le plus petit, je suis pas sûr qu'il ait ça. Donc tout ça pour dire que on a beau mettre son informatique dans l'infonuagique, il faut quand même prendre des informations sur le fournisseur et notamment sur tous ces systèmes de reprise, de continuité de service, de continuité de maintenance de leur système, etc. Et ça, en fait, avec cette vague de tournant numérique, ben on regarde pas ça. La première des choses qu'on regarde, en fait, c'est le prix et c'est vraiment dommageable parce que il y a une expression que je dis régulièrement et j'ai écouté, je crois que c'est David ou toi dans un podcast précédent, et ça, c'est juste l'expression que j'utilise, hein. L'infonuagique, ce n'est pas magique. Loin de là. Même si c'est pratique, ce n'est pas magique. Donc, il faut vraiment regarder. Donc, si vous avez votre fournisseur infonuagique et vous n'avez plus de fournisseur infonuagique, il y a un impact pour vous.
Oui, bien, évidemment. Puis là tu as parlé spécifiquement d'OVH, mais on a des pannes dans Azure, il y a des pannes dans AWS qui sont majeures. Il y a eu des sinistres aussi chez les autres fournisseurs, là, juste pour pas mettre le spotlight spécifiquement sur OVH. Puis l'ensemble de la réflexion, parce que je vais consommer OVH, que je vais faire plus attention. Le même degré d'attention doit se faire chez tous les fournisseurs, justement, parce qu'il y a eu plusieurs pannes, dont celles qui sont les plus évidentes sont celles de AWS, où on a une panoplie d'autres services qui reposent sur AWS qui tombent en panne en même temps, comme Netflix, par exemple, comme une plateforme plein de plateformes de e-commerce, des choses comme ça. Donc, la réflexion, elle est vaste parce que justement, c'est pas magique. Et on délègue pas tant que ça. Puis là, en même temps, parce qu'il y a eu, tu mentionnais beaucoup d'entreprises qui sont soit qui ont disparu ou qui ont été largement endommagées par le sinistre d'OVH. C'est parce qu'ils n'ont pas lu les clauses de leur contrat avec OVH parce que c'était c'est pas prévu qu'il y avait de la relève dans leur autre le petite relève locale avec des copies de sauvegarde locales comme les autres faisaient, mais il y avait pas sur deux sites, il y avait pas des choses supplémentaires, il y avait pas d'éléments comme ça qui sont très importants à tenir en compte aussi là. C'est la réflexion, faut qu'elle soit aussi chez le console, l'utilisateur des services infonuagiques.
Ouais, tout à fait. Je vais juste compléter et en effet, on met le spotlight sur OVH parce que c'est un cas d'école qui est énorme. Un centre informatique qui brûle, c'est pas tous les jours. Et en plus ça, un centre informatique qui fait de l'infonuagique, c'est pas tous les jours non plus. Mais en effet, quand on voit, par exemple, en décembre 21, il y a eu trois pannes à suivre sur AWS. Xbox pendant 4 jours, le cloud d'Xbox pendant 4 jours, bah, il a pas fonctionné. Apple Store en mars 2022. Et puis Microsoft aussi. Donc, en fait, il faut bien voir qu'en effet, tous les fournisseurs sont sujets à des pannes de maintenance. On l'a vu avec Roger, ça a été un des podcasts qu'on a fait. Donc, tous les fournisseurs. Maintenant, tu as rajouté quelque chose qui était très, très juste. C'est que si les fournisseurs, ils ont une responsabilité de moyens, de services, il n'empêche que l'utilisateur a une responsabilité de réfléchir et de lire, en fait, les petites lignes qui sont dans le contrat. Et dans le cas d'OVH, c'était très intéressant aussi. Parce que dans le contrat, c'était clairement spécifié que les sauvegardes sont un supplément et qu'il faut payer en fait un supplément pour avoir des sauvegardes. Pour la reprise informatique, la résilience des systèmes, soit dans le même centre, soit géolocalisé, c'est pareil, tout ça, c'est des options. Et la majorité des fournisseurs fonctionnent comme ça, c'est-à-dire sur la base d'options. Donc, ils fournissent un produit de base qui est généralement pas cher, et c'est le cas d'OVH, hein. C'est le low cost de l'infonuagique. Et en effet, c'est pour ça qu'il y a énormément d'entreprises qui vont là-dedans, parce que c'est pas cher, hein. Mais quand c'est pas cher, hein, eh ben, il y a des trucs qui sont pas bien derrière. Et donc, c'est au client, en effet, de regarder ce qu'il en est et de cocher la bonne case sur Microsoft. Hein, c'est une case qu'on coche pour avoir, en fait, des sauvegardes. C'est une case qu'on coche pour avoir de la reprise informatique, qu'elle soit géolocalisée ou pas. Et par rapport à ça, si le client lui-même ne prend pas le temps, en fait, de regarder ces lignes-là, ne fait pas une stratégie en disant, moi, mon informatique, est-ce que je veux qu'elle soit sauvegardée? Est-ce que je veux qu'elle soit redondante? Est-ce que je veux si, etc.? Si elle ne prend pas le temps, le client se base juste, en fait, sur un effet coût. Et dans ce cas-là, il prend le produit, il balance son site de commerce en ligne, etc., sans prévoir tout le reste. Et ça, c'est vraiment une éducation à mettre au niveau du client. Et cette éducation-là, on l'a pas. C'est l'argent qui compte, sans avoir une réflexion derrière. Donc, en effet, au niveau des clients, il y a une très, très forte responsabilité du client de faire attention à ses données. Régulièrement, je parle de... les données, c'est comme le sang qui passe dans vos veines. Si vous avez plus de sang, vous mourrez. Ben, si vous avez plus de données, votre entreprise meurt. Là, dans le cas d'OVH, je crois qu'il y a à peu près 3000. Alors, les chiffres varient là, mais bon, même 3000, c'est déjà énorme. Il y a 3000 entreprises qui ont déposé le bilan à l'issue, en fait, de ce sinistre-là. Parce que elles avaient perdu la totalité de leurs données, la totalité des informations de leur système. Donc, elles étaient mortes. Elles ont pas pu redémarrer. OVH a donné 6 mois de gratuité, pour les gens qui avaient perdu des données. Autant te dire que la compensation n'est pas suffisante par rapport en fait à la perte que l'on vit.
Oui, c'est assez majeur comme élément. Puis justement, le dédommagement, ça, on peut toujours, tu sais, on a toujours place à ça. On l'a vu avec le cas de Tim Horton, à quel point les gens ne sont pas satisfaits de celle-là. Les gens ne seront jamais satisfaits de toute façon de ce genre de type-là. Puis c'est, bon, bref, c'est ce que c'est, mais... C'est justement la vie même de ces organisations-là. Puis, il faut aussi le réfléchir à qu'est-ce qu'on fait s'il y a une panne. Puis, c'est là où, je pense que dans ce cas, les 3000 entreprises que tu fais référence, cette réflexion-là sur qu'est-ce qu'on fait si on perd nos données, qu'est-ce qu'on fait si on veut avoir de la continuité. On parle les plus des services comme qui reposent sur AWS, par exemple, ou Azure, où il y a des pannes qui sont majeures. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'une panne Azure? Qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'une panne AWS ou OVH dans ce cas-ci? C'est quoi la mesure qu'on met en place? Le fait de géolocaliser, ça en est une. Est-ce qu'on veut le payer? Est-ce que notre service est suffisamment important pour que ça soit fait comme ça? Est-ce que c'est important? Est-ce que nos données sont des données utiles à conserver ou sont juste consommables? Fait que c'est un paquet de réflexions qui est fait. Là. Bon, on revient encore dans la magie.
Ouais, c'est ça. Ça, justement, tout ce paquet de réflexions-là, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Et en fait, quand on part sur le cloud, on envisage en fait de réduire ses coûts. Donc, c'est paradoxal. C'est qu'en effet, quand tu vas dans un centre infonuagique ou même d'ailleurs chez toi, il faut regarder qu'est-ce qui est important pour toi. C'est quoi ton cœur de business? C'est quoi tes activités qui sont essentielles? Et en effet, une fois que tu vois tes activités qui sont essentielles, c'est de dire, OK, si moi, les systèmes informatiques qui sont en support à ces activités essentielles ne sont pas disponibles, comment est-ce que je maintiens mon business? Donc là, par rapport à ça, il y a tout ce qui va être récurrence informatique, donc de la reprise informatique, de la géolocalisation, de l'actif-actif, actif-passif et toutes ces technologies. Mais ça va aussi plus loin que ça parce que l'informatique, la technologie n'est pas infaillible. Vous pouvez avoir des effets cascades sur des points uniques d'accès qui peuvent tomber. Dans ce cas-là, votre informatique ou votre secours, vous pouvez aussi ne pas l'accéder. Donc, ça amène aussi une réflexion de dire, OK, si j'ai plus d'informatique, comment est-ce que je fais pour maintenir mon business? Et là, on rentre complètement dans le plan de continuité de service ou d'affaires sur le volet métier et qui va consister à dire, ben, si j'ai plus d'informatique, il faut que je travaille papier-crayon. Comment est-ce que je peux travailler papier-crayon? Ou comment est-ce que je peux travailler en local avec un minimum d'informatique de façon autonome? Et ça, ça amène une réflexion que les entreprises ne sont pas toujours intéressé ou prête à faire parce que ça fait remettre en cause leur façon de travailler. Ça fait remettre en cause que parfois, s'ils ont plus d'informatique, ils peuvent plus carrément travailler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais avec mes salariés? Qu'est-ce que je fais avec mes clients? Qu'est-ce que je fais avec mes fournisseurs? Et ça, cette réflexion-là, ils sont tellement pris par le business en cours, par le quotidien, qu'on reporte ça en disant, on remettra ça plus tard. Donc, il y a des solutions qui sont très, très simples. C'est simplement déjà de regarder sur quand les gens partent en vacances. Vous avez des personnes clés qui partent en vacances. Elles sont, à un moment ou à un autre, remplacées par des personnes qui sont un peu moins clés, mais qui connaissent quand même le travail. Il y a aussi des procédures qui permettent de remplacer ces personnes-là. Au niveau de... régulièrement, il y a des pannes, comment ça s'appelle, d'électricité. Ça arrive au Québec, ça arrive de façon assez régulière. Donc, c'est capitaliser, en fait, sur qu'est-ce que j'ai fait quand j'avais une panne électrique. On activité. Est-ce que je suis, est-ce que j'ai déplacé, si j'étais dans une activité plus administrative, est-ce que j'ai déplacé mes personnels sur un autre site pour qu'ils puissent avoir un site avec de l'électricité et puis retravailler avec? Est-ce qu'ils sont repartis chez eux? Donc tout ça, toutes ces réflexions-là, on peut les avoir sur la base, en fait, déjà du vécu de sa propre entreprise ou du vécu qu'il peut y avoir dans d'autres entreprises, dans des cercles de discussion. Donc, toutes ces choses-là, il y a des solutions. Il suffit simplement, en fait, de se pencher, de prendre le temps, de dire, OK, aujourd'hui, je travaille sur ma résilience. Je travaille sur le fait de dire, OK, si j'ai plus mon informatique, quels sont les pans de mon entreprise qui tombent et comment est-ce que je fais pour pouvoir les relever?
Oui, puis là, c'est intéressant parce que là, on a abordé les erreurs du fait de penser que l'info nuagique nous apporte de facto une certaine résilience, ce qui est faux parce que si on faut lire les petites clauses, là, je vais prendre le contre-exemple, O365, comme c'est un service géré sur l'ensemble, quand on lit les clauses, effectivement, il y a une certaine redondance et copie de sauvegarde qui est incluse. Là, il faut savoir où arrête ce qu'on veut et ce qu'on a de besoin et qu'est-ce qu'on fait pour compenser et atteindre nos objectifs. Parce que ça, il faut fixer nos objectifs d'affaires. Puis tu l'as bien souligné sur le fait que nos objectifs doivent être concordants. Puis après ça, on regarde le prestataire et le service inclus. Et quelles sont les options que je dois prendre pour arriver justement au niveau voulu. Et justement, le deuxième aspect de l'infonogique, c'est que c'est un outil intéressant aussi. Là, on a parlé de faire les erreurs, mais un outil qui nous aide à mettre en œuvre un plan de continuité, un plan de la cyber-résilience, parce qu'il y a des outils très intéressants qui viennent complémenter ce qu'on a déjà.
Et ce que tu dis là-dessus est très intéressant sur le fait de c'est un outil très complémentaire. En effet, toujours dans le cadre de la réduction de coûts, hein, parce qu'il ne faut pas se cacher, ça c'est cette attraction-là, et c'est d'ailleurs pour ça que les gens y vont beaucoup. Après, il y a d'autres surprises, mais ce n'est pas bien grave. Mais quoi qu'il en soit, c'est qu'en effet, on parle de reprise informatique. On peut avoir des reprises informatiques quand on est chez soi, avec le centre principal et puis un site à blanc ou alors un fournisseur qui va vous fournir du matériel pour un site redémarrage à froid. L'info nuagique amène plusieurs avantages. C'est vrai que je parle beaucoup des côtés négatifs, mais les avantages, c'est quand même de réduire les coûts sur la partie reprise informatique. On peut très bien avoir un centre physique chez nous et puis s'occuper de la reprise informatique dans l'info nuagique. Et dans ce cadre-là, c'est très intéressant parce qu'en fait, un centre informatique coûte très très cher quand on l'a en interne, coûte très peu cher lorsqu'on l'a en fait chez un fournisseur info nuagique. Donc, utiliser un fournisseur info nuagique pour la partie reprise informatique, c'est très intéressant. Ça nécessite quand même des connaissances. Ça nécessite quand même un apprentissage. La marche peut être assez haute. Ça nécessite une organisation qui tienne la route, de bien connaître son informatique pour pouvoir ensuite de ça la faire redémarrer dans l'info nuagique. Donc ça, c'est très, très intéressant sur ce point-là. Ça amène beaucoup, beaucoup d'avantages. Différents fournisseurs info nuagiques offrent ces solutions-là, comme d'ailleurs les serveurs, les sauvegardes où on peut les faire aussi dans l'info nuagique. Il y a aussi un autre point qui est intéressant et qu'il faut aussi prendre en compte quand on fait une migration complète de nos systèmes d'information dans l'info nuagique, c'est cette notion en fait de souveraineté. Quand on va dans l'info nuagique, en fait, on perd cette souveraineté du fait que les données sont chez un tiers et que c'est ce tiers qui gère ces données-là et que si du jour au lendemain, il décide de plus vous donner accès à ces données-là, vous n'avez plus accès à vos données. Donc, par rapport à ça, il y a différentes réflexions à avoir. Sur mes données, est-ce que j'envisage de faire les sauvegardes de ces données chez le même fournisseur ou est-ce que je fais les sauvegardes des données chez un autre fournisseur? Ce qui permet en fait d'avoir vos données sur deux sites et deux fournisseurs différents, ce qui fait que si votre fournisseur A qui vous héberge est indisponible, pour une raison X ou Y, vous avez quand même une copie des données qui se trouve chez le fournisseur B. Il reste quand même des limites au niveau des sauvegardes, parce qu'il y a quand même des catalogues, des choses comme ça, là. Donc il faut être attentif par rapport à ça. L'autre chose, quand on fait aussi de la reprise informatique dans l'info nuagique, c'est de regarder par rapport, hein, est-ce que je fais ma reprise chez le même fournisseur, hein, ou est-ce que je fais ma reprise informatique chez un autre fournisseur? Toujours pour le même principe, si votre fournisseur infonuagique, pour une raison X ou Y, dépose le bilan et que votre reprise informatique est chez lui, eh ben, vous aurez plus votre production et vous aurez plus la capacité de pouvoir redémarrer ailleurs. D'où l'intérêt d'avoir, en fait, un autre fournisseur infonuagique. Donc, ça complexifie, on est bien d'accord par rapport à ça, mais il n'empêche qu'il faut toujours prendre en compte la sécurisation de vos données. Hein. Vraiment, en infonuagique, on perd la souveraineté des données, donc il faut vraiment penser à pouvoir conserver ces données. Comme je le disais tout à l'heure, les données, c'est le sang qui circule dans vos veines. Plus de sang, plus de vie. Donc, être très attentif par rapport à ça.
Oui, absolument. Puis un peu comme j'avais abordé dans un autre podcast d'ailleurs, puis probablement revenir énormément sur ce sujet-là. Puis là, on aborde dans des concepts de design de système informatique. Puis là, c'est important que les gens qui designent vos systèmes puis qui vous accompagnent utilisent des approches modernes, c'est-à-dire de ne plus coupler fortement le compute, c'est-à-dire le processing, c'est-à-dire qu'est-ce qui travaille vos données, qui les utilise, et l'existence même de vos données, qui, elles, doivent avoir une plus grande pérennité. C'est-à-dire que les données elles-mêmes doivent être soit conservées sur plusieurs sites ou plusieurs fournisseurs ou on les sort. Puis, il faut faire attention quand on sort les données, à l'exception d'OVH, tous les fournisseurs chargent les données à la sortie. Donc, il faut faire très attention comment on va calculer ça. D'ailleurs, faut le regarder aussi sous l'angle. On met toujours le spectre du fait que le fournisseur va nous empêcher de sortir nos données. Légalement, c'est peu probable parce que dans les contrats, généralement, il y a des clauses qui maintenant ont mis ça parce que les autres, à terme, la plupart des fournisseurs majeurs, on parle pas des plus petits, mais les majeurs, eux autres, leur business, ce n'est pas de vous enfermer. Ils vont vous enfermer de d'autres façons, de toute façon. Par le fait que les données sont très difficiles à manipuler en dehors de leur système à eux, mais ils n'ont aucun intérêt à vous donner l'impression qu'ils vous empêchent de sortir parce que cette peur-là, justement, empêche les clients d'y aller. Fait que ça, faut le regarder correctement aussi parce que du mythe à la réalité, faut vraiment le mettre en œuvre. Mais en même temps, quand on va construire un volet service complet comme un O365, les données, même si on est capable de sortir facilement, sont inutilisables dans un autre système. Dès lors, faut être capable de le réfléchir comment on fait. Parce que j'ai eu un cas, j'ai eu plusieurs cas qu'on m'a consulté pour des backups dans O365, par exemple. Puis là, je dis, quel est votre objectif? Parce que si vous voulez faire de la reprise, oubliez ça, ça sert à rien. Le service lui-même, le compute, vous le possédez pas. Vous possédez juste les données. Fait que vous allez vous amuser avec vos données. Fait que réfléchissez, c'est quels sont les éléments réels et quel élément que vous voulez vraiment conserver à travers ça. Si c'est vraiment une volet de souveraineté, tu mentionnais souveraineté numérique, de conserver vos données, oui. Oui, c'est intéressant. Oui, vous allez pouvoir vous soustraire ou à tout ça, mais faut vraiment le mesurer correctement parce que sinon vous allez engager des coûts inutiles puis vous allez avoir une fausse impression d'être résilient.
Ouais, c'est ça. Tu vois, et c'est là aussi l'histoire de partir dans l'infonuagique parce qu'en effet ça réduit les coûts là. En fait, derrière, on a tout plein de coûts cachés. Sortir des données, etc. En effet, c'est un coût. Tout ça, c'est à prendre en compte dans la réflexion de basculer dans l'infonuagique. Et ça, on le voit pas. On bascule hein, et seulement après, on va traiter l'aspect reprise informatique. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire « Ah ouais, mais il faudrait penser à la reprise informatique. » Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui va dire « Ouais, mais est-ce que tu as des sauvegardes qui sont prévues ?» Ah ben non. Donc, tout ça, en fait, on part bille en tête en disant « Ok, on va économiser. » Par contre, ensuite de ça, là, ben voilà, il y a des coûts supplémentaires qui arrivent. Donc, hormis le fait que les coûts supplémentaires arrivent, en fonction, en fait, de l'infonuagique qu'on va prendre, que ce soit le SaaS, le IaaS, le PaaS, comme tu disais tout à fait pour le SaaS, hein, Office 365, c'est des systèmes qui sont propriétaires. Donc, c'est-à-dire que extraire les données de ça pour chez vous, tu disais très justement, le computing, eh ben, on l'a pas. Donc, faire des sauvegardes de la messagerie pour la reconstruire chez soi, bah ça reste assez complexe à mettre en place et ça se règle pas tout de suite. Et c'est pour ça, en effet, les fournisseurs SaaS ne cherchent pas à vous emprisonner, mais de fait, vous êtes attaché à eux parce que c'est leur système et que les données de la façon dont elles sont faites, ne sont pas extrayables rapidement. Donc, par rapport à ça, il faut être très, très clair avec le fournisseur SaaS de vérifier, bah, c'est quoi, en fait, lui, sa résilience? Comment est-ce qu'il vous garantit que ces systèmes vont être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Et surtout, en cas de sinistre, comment ça se passe chez eux? Est-ce que c'est géolocalisé? Et puis, dans ce cas-là, bah, si le centre A passe au feu, le centre B, il va être disponible avec ou sans coupure, micro-coupure, peu importe. Mais comment est-ce que c'est ficelé là-dedans? Il y a énormément d'entreprises et puis il y a énormément de services infonuagiques là, et de plus en plus, on va sur des services infonuagiques qui sont propriétaires sans regarder du tout, en fait, cet aspect. Qu'est-ce que je fais si mon fournisseur infonuagique Office 365 s'arrête là? Du jour au lendemain, là, ça s'arrête pour plusieurs semaines. Comment est-ce que je fais avec mes courriels? Comment est-ce que moi j'envoie mes courriels? Comment est-ce que je contacte mes clients, etc.? Donc là, spécifiquement, quand on va chez un fournisseur de ce type-là qui est vraiment spécifique, en fait, eh ben, faut avoir toujours un plan B. Donc des plans B, hein, vous avez tout plein de fournisseurs de messagerie. Vous pouvez avoir un minimum une messagerie secondaire qui peuvent être activées en cas d'indisponibilité de votre fournisseur principal. Toi, tu as une messagerie en Suisse qui est super sécurisée. Je me rappelle pas comment elle s'appelle.
Ouais, c'est moi, c'est Proton que j'utilise, mais ce n'est pas le seul que j'utilise un peu, comme pour reprendre ce qu'on a déjà discuté. Mes services sont doublés. J'ai toujours deux fournisseurs pour un même type de service. Dans le cas de Proton, c'est mon principal. S'il venait à échouer, j'ai toujours un autre service secondaire sur lequel je vais pouvoir basculer. Peut-être pas très rapidement, mais dans lequel je vais pouvoir basculer minimalement pour réussir à continuer à opérer, à communiquer à travers ça. Comme j'ai plusieurs cellulaires, comme j'ai plusieurs éléments comme ça qui me permettent justement de survivre à une panne d'un fournisseur, ben, même chose pour mes courriels, j'ai d'autres portes, d'autres façons.
Et c'est pour ça les courriels justement et Proton c'est sécurisé. C'est pour ça que les courriels parfois c'est confidentiel et donc mettre son courriel de secours chez Gmail, bah c'est pas forcément la meilleure solution. Mais par contre, bah voilà, il y a Proton là, on fait de la pub un petit peu pour Proton et c'est sécurisé. Donc, mais quoi qu'il en soit, en fait, l'idée derrière ça, c'est de se dire ok, j'ai un fournisseur infonuagique sur lequel je travaille à 100% sur par exemple ma messagerie là, ben ça me prend une messagerie ou en tout cas une réflexion ou une solution ou des accords, peu importe, pour les nœuds comme vous voulez. Il y a différents niveaux en fait de maturité là-dedans pour dire ok, si j'ai plus Office 365, si j'ai plus la messagerie Outlook, bah sur quoi je bascule et comment est-ce que je fais ça? Et ça veut dire qu'il faut quand même se préparer avant, parce que vous avez quand même des listes de correspondants. Là, ça peut être intéressant d'avoir une petite extraction de votre liste de correspondants pour pouvoir écrire en fait à vos fournisseurs, à vos clients, etc. Donc tout ça, en fait, ça se réfléchit à l'avance. C'est pas très long, ça prend du temps, certes, mais ça peut vous sauver énormément, et puis ça peut vous sauver votre business. Si vous n'avez plus votre liste de clients là, bah vous êtes quelque part un peu mort, quoi. Il y a une entreprise qui, pareil, en France, a fermé. Ils ont été cyberattaqués, en fait. Enfin, ils ont été cyberattaqués. Du coup, ça a généré une fermeture de l'entreprise parce qu'ils ont perdu, en fait, l'accès à tous leurs clients, à leurs factures, à tout ça. Bah, c'est exactement le même principe. Si vous n'avez plus accès à l'info nuagique, bah, ça vous prend des copies quelque part. Organisez-vous comme vous voulez, mais ça vous prend des copies. La fameuse méthode 3-2-1, hein, trois copies de la même information sur deux supports différents et un dans un site externe, bah, c'est exactement la même chose pour l'info nuagique. Vous avez la possibilité, même dans les logiciels qui sont spécifique SaaS, de pouvoir faire des extractions. Faites des extractions, gardez-le quelque part. Si vous n'avez plus accès à vos systèmes, bah, ça vous permettra quand même de pouvoir avoir une petite base pour redémarrer. Vous voyez cette petite flamme dans les chauffe-eau, hein, il y a toujours une petite flamme. Bah, c'est ça qu'il faut conserver en fait dans une entreprise qui est sinistrée. C'est cette petite flamme qui permet en fait de rallumer le chauffage pour que l'entreprise redémarre.
Oui, très pertinent. Puis dernier point sur ce volet-là, c'est puis les gens font pas attention à ça, c'est qu'il faut que la sécurité associée à la sauvegarde doit être au même niveau que le système de base, parce que les gens vont peut-être réduire, là, tu parles, parce que ça m'a paru quand tu as parlé de Proton, mais c'est-à-dire si je bascule mes courriels dans un autre fournisseur, dans un code relève, faut que j'ai le même degré de sécurité avec celui-ci. Gmail est peut-être pas le bon opportunité, fait qu'il faut pas l'oublier que ouais. Cet aspect-là est très, très important, là.
Ouais, c'est ça, sur ces notions de sécurité, hein, ça aussi c'est excessivement important quand on va commencer à réfléchir à toutes ces solutions de reprise, ces solutions de contournement, ces solutions de continuité, de relève, appelez-les comme vous voulez là. Il y a l'aspect sécurité, la solution de secours que vous prenez doit avoir le même niveau de sécurité en fait que votre produit principal, que votre solution principale. Donc ça, tout ça, c'est des réflexions en fait à avoir. Mais quoi qu'il en soit, il y en a plein des réflexions. Il faut simplement prendre le temps en fait de se poser, de pas s'emballer, de pas voir l'aspect économique en premier lieu, mais de voir en fait tout ce qui est concomitant. Parce que si vous partez sur cet aspect économique, que vous regardez pas le reste, croyez-moi, quand vous allez être sur une notion d'indisponibilité, ça va vous coûter un bras et ça va vous coûter beaucoup plus cher que ce que vous aviez avant. Juste à titre d'information, pour une indisponibilité pour une personne, un salarié, c'est à peu près 50 à 100 dollars. La même chose en euros, entre 50 et 100 euros de l'heure. Donc, vous avez, par exemple, 10 salariés qui sont indisponibles pendant une heure, c'est 500 dollars. Minimum 1000 dollars sinon. Vous avez 10 heures, et ben ça vous fait un petit coup de 10 000 dollars. 10 000 dollars, on a moyen quand même de pouvoir réfléchir un petit peu sur les solutions de contournement par rapport à ça.
Absolument. Donc, on va conclure cet épisode-là à ce moment-ci. On a déjà abordé le sujet correctement. On va sûrement y revenir dans d'autres épisodes parce que c'est des sujets complexes qui sont longs et avec des ramifications très importantes. Merci beaucoup de ce partage.
Ça fait vraiment plaisir et c'est toujours agréable en fait de partager et puis d'échanger avec toi. C'est toujours un plaisir.
Merci.